Vous écoutez
RMC.
RMC.
Le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps n'a pas de temps pour le temps. Le temps ne s'arrête pas. Là, j'arrête ma montre. Mais le temps, il continue. J'ai arrêté le temps de ma montre, mais pas le temps. Le temps n'a pas de temps, mais il faut du temps.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot. Timothée Mémon.
Bienvenue dans l'After, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas. Dans quelques instants, on va vous parler de la liste des nommés pour le Ballon d'Or, dont Messi ne fait pas partie. C'est une des grosses informations de la soirée. On sera également à Lorient, puisque le match entre Lorient et Lyon a été reporté. On sera avec Arnaud Tanguy, directeur général du FC Lorient, qui viendra nous expliquer un peu cette situation ubuesque. Vous nous appelez au 32-16, supporter lyonnais lorientais, supporter également du Paris Saint-Germain, de Messi ou de tout autre joueur qui serait nominé dans cette liste. Je vous la donnerai tout à l'heure. Avant cela, messieurs, je voudrais débriefer cette rencontre. On est toujours avec Kevin Diaz qui est resté avec nous et on accueille Jonathan Macardy. Salut Jonathan.
Salut tout le monde.
Comment ça va?
Nickel. Écoute, hein, le match n'était pas forcément fabuleux, mais il y a quand même pas mal de choses à dire, je pense.
Et bien, puisqu'il y a pas mal de choses à dire, on va le faire et c'est les 3 points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
L'honneur à Jonathan qui n'était pas avec nous jusqu'à présent.
Mon premier point, c'est que si c'est ça le match d'une équipe française qui joue la Coupe d'Europe à domicile, bah il y a de quoi s'inquiéter. En termes de jeu, c'était c'était affligeant, c'était indigent. La première mi-temps notamment.
Je parle de Nantes.
Je parle de Nantes évidemment. Et si c'est ça l'image que le FC Nantes veut donner de la France en Coupe d'Europe, autant ne pas y aller du tout. Et le deuxième point, on en vient au héros de la soirée, hein, Alban Lafont. J'ai l'impression de voir Iker Casillas à ses plus belles heures, Gigi Buffon à ses plus belles heures aussi. Très très gros match d'Alban Lafont qui fait que le résultat de ce soir est un petit peu en trompe-l'œil. Et mon troisième point, évidemment, sur le LOSC. Le LOSC fait un bon match, mais n'est pas récompensé. Il y a eu quelques petits soucis de réalisme, mais je pense que ce que met en place Fonseca, c'est quand même assez séduisant et j'ai hâte de voir Ismaili en forme. C'est quand même un joueur qu'on a tous bien aimé à Donetsk. Et là, même hors de forme, t'as l'impression qu'il marche déjà sur ses adversaires, quoi.
Kevin.
En premier point, c'est déjà le plaisir de retrouver la Ligue 1, le plaisir de retrouver les 3 points, donc. Et le plaisir
le
surtout.
Le plaisir partagé de te retrouver avec nous.
Merci. Ah, t'étais pas là la semaine dernière, c'est
et
vrai.
Et surtout le plaisir de revoir le LOSC. Le LOSC à ce niveau-là. J'ai vu vraiment une belle équipe de Lille pour un deuxième match de la saison avec un entraîneur vraiment qui a des principes. Qui a fait des gros choix, notamment la mi-temps. On aura le temps d'en reparler. En deux, c'est Nantes. Nantes, franchement, ils sont décevants, même si, ok, ils ont perdu Kolo Muani, mais ils ont quand même une grosse ossature de l'an dernier. Tu mènes 1-0, tu fais que défendre en deuxième mi-temps. C'est vraiment dommage parce que je pense qu'il y avait mieux à faire. Et en 3, c'est Rémi Cabella qui est rentré à la mi-temps. Non, en fait, il était titulaire, mais c'est tout comme parce qu'à partir du moment où il a allumé la lumière, ça a vraiment éclairé le jeu du LOSC.
Ouais. Messieurs, j'aimerais commencer en reprenant vos 3 points particulièrement éclairants sur la prestation de Nantes. Est-ce que Nantes ne se doit pas, en tant que vainqueur de la Coupe de France, ne se doit pas de se montrer un peu plus ambitieux dans le jeu qu'il produit?
C'est toujours pareil, hein. Tu sais, ces équipes qui font une grosse saison sur la transition, sur la contre-attaque, ça va une saison, ça va quelques mois, mais à partir du moment où tu as un autre statut, comme a dit Jonathan, maintenant, même si tu restes que le FC Nantes, t'es quand même un bon club français, tu es européen, tu as gardé, pour l'instant en tout cas, la grosse majorité de ton effectif, même s'il te reste, il te manque un buteur, mais quand même, tu dois proposer un peu plus. La Beaujoire, il y a plus de 30 000 personnes aujourd'hui. Alors oui, il y a eu des occasions. Il y a Moses Simon qui est toujours au niveau. Il y a pas de souci. Bon, Ludovic Blas, c'est un match un peu particulier parce qu'il est en partance peut-être pour Lille. Ouais. C'est jamais facile de jouer contre un éventuel futur employeur. Mais dans les idées de jeu, en deuxième mi-temps, c'est pas possible. C'est pas possible de ne faire que défendre. Il y a un moment, au moins sort, remonte un peu ton bloc, essaye d'aller chercher un peu plus haut, comme ils ont fait en première mi-temps. La première mi-temps, c'était pas fou, mais au moins ils ont proposé un minimum de choses avec le ballon. Et là, en deuxième mi-temps, tu te dis quand même, ouais, la saison, elle va être longue quand même. Si à chaque fois que tu marques un but, tu restes devant ta surface, c'est compliqué.
Bon, on a vu les stats passer, hein, 30% de possession, un tir cadré, c'est quand même assez dramatique. Je pense que le niveau technique, notamment, a été catastrophique. Après, on peut pas demander à Antoine Comboiré de faire des miracles. Moi, je persiste à dire que cet effectif-là équipe-là reste quand même grandement diminuée, surtout quand tu perds ton buteur. L'année dernière, il faut pas cracher sur ce qu'on a trouvé bien l'année dernière, c'était que c'était une équipe qui avait de la personnalité. Alors je te rejoins, Kevin, tu peux pas faire deux saisons de suite comme ça. C'est-à-dire tu es une équipe de transition qui joue le contre. Au bout d'un moment, les adversaires te connaissent. Mais surtout, si tu veux continuer et faire en sorte que ça marche, t'as quand même besoin de qualité devant. Et là, pour l'instant, cette équipe ne s'est pas renouvelée. T'as des joueurs à l'image de Blas, tu l'as justement dit, qui a la tête ailleurs. Et moi, j'en veux pas à Camboré parce que lui, il est pour pas grand chose. Mais non, c'est simplement que je pense que cet effectif-là, bah, il est indigne d'un club qui va jouer la Coupe d'Europe. Et je le redis, hein, moi, je suis très inquiet pour le FC Nantes en cette année de 4 descentes. Sachant que les matchs du jeudi vont forcément peser dans les chaussettes des joueurs, surtout si tu renforces pas plus ton effectif. Et malheureusement, ce qu'on a vu du FC Nantes aujourd'hui, moi je continue d'être extrêmement inquiet. Alors, pour conclure, à moins qu'on nous dise qu'ils ont fait une préparation à l'italienne et qu'ils vont avoir leur pic de forme, etc. plus tard, pourquoi pas. Mais techniquement, cette équipe était d'une faiblesse dramatique.
Et puis il y a un paramètre aussi, c'est que ce soir, Moises Simon, c'est un des meilleurs. Et il est sur les tablettes de quelques clubs, ouais. Notamment en première ligue.
Oui, oui, Moses Simon plus Blas, c'est vrai que ça ferait quand même beaucoup. Deux, hein.
Et attends, il y en a un autre. Tu as parlé d'Alban Lafont. Mais Alban Lafont, moi j'ai vu passer quelques supporters de Leicester qui l'auraient bien vu, remplacer Schmeichel. Donc je veux dire, il va être aussi sur les tablettes de clubs. Le mercato c'est encore quand même loin d'être fini. S'il continue les prestations comme ce soir, il y a quand même moyen qu'il ait aussi des sollicitations. Et là, je fais pas vraiment confiance à la bande de copains qui recrute à Nantes. Donc,
Pensez quoi de Mohamed?
Pas sûr que.
Oh, c'est un joueur qu'on attendait de voir en ligue, hein, Tim. Il est arrivé chez
lui. Il a fait beaucoup d'efforts.
Non, mais c'est vrai qu'au-delà du fait qu'il ait failli venir à Saint-Etienne, moi, je me souviens notamment de ce qu'il avait fait avec Zamalek, où c'était vraiment un joueur en pleine bourre, en pleine confiance. Il était arrivé à Galatasaray, il s'était adapté immédiatement, parce qu'il avait marqué très vite. Après, ça a été beaucoup plus compliqué. C'est pour ça qu'il vient se relancer un petit peu dans le championnat de France. Mais c'est un joueur que, malheureusement, je le vois faire avec Nantes les matchs qu'il fait avec l'Égypte. C'est-à-dire, c'est un attaquant qui joue attaquant, mais pas pour attaquer, pas pour marquer des buts. C'est pour faire des efforts, pour étirer les blocs. Et c'est ce qu'il a fait avec l'Égypte à la dernière CAN. Et pour laisser de la place à Mohamed Salah en sélection. Et là, pour essayer de laisser de la place à Moses Simon. Parce on n'a pas l'impression qu'il est là.
Tim. Sur le match de ce soir, t'as l'impression qu'il voulait pas rentrer dans la surface, quoi. J'exagère à peine, mais c'était quand même assez curieux, son comportement. Donc, je te fais confiance, je sais que toi qui couvres la CAN, etc. Mais, je pense que tu peux pas forcément faire la saison avec si peu de qualité dans le secteur offensif.
Ça fait que deux matchs, laisse-lui un peu de temps pour s'adapter.
Je suis d'accord avec les limites que note Jonathan sur Mostafa Mohamed. Et je trouve qu'on peut aussi se poser la question d'Evan Guessant, qui fait une entrée avec cette tentative de lob qui est pas
il
mal,
marquer,
mais
hein.
Ça me paraît jeune, ça me paraît pas avoir cet instinct de killer.
Guessant, j'ai jamais trouvé été impressionné.
Pareil.
Je veux bien qu'il ait du potentiel, mais je pense pas que ce soit le mec qui soit capable. Allez, je te dis, je suis modeste, mais le mec qui soit capable de te mettre 8 buts en Ligue 1, ce qui est déjà pas mal, tu vois, d'avoir un attaquant. Tu sais que c'est 8-10 buts, ça peut te sortir une épine du pied. Mais là, va falloir tout faire pour prendre Moses Simon, de le mettre dans un placard, mettre un cadenas jusqu'à la fin du mois d'août, hein. Parce qu'il s'en va, c'est dramatique.
Effectivement, ça pourrait être problématique.
Blas, c'est à qui part, Ludovic Blas? Simon, faut surtout pas le perdre.
Est-ce que Nantes peut refuser tout type d'offre? C'est ça la question qu'on est en droit de se poser.
Je ne crois pas.
Je ne crois pas non plus. Ah. Nicolas est supporter du FC Nantes. Il nous a appelé au 32-16. Salut Nico.
Salut, bonsoir à tous.
Salut Nicolas.
Comment ça va Nicolas?
Bah, très bien, très bien. Je suis heureux d'avoir revu Nantes avec un super état d'esprit. Déjà pour moi, c'est le point positif de l'équipe qu'on a vu ce soir collectivement. Il y a vraiment quasiment que l'état d'esprit qui est gardé, mais ça, c'était vraiment bien. On a vu tous les joueurs se battre.
L'année dernière, c'était déjà le cas, non?
Oui, l'année dernière, c'était déjà le cas. Mais c'est depuis Camboré, et c'est quand même, c'est toujours bien à souligner, et ça fait vraiment toujours plaisir à voir. Mais je suis entièrement d'accord avec ce que disait Jonathan. Pour moi, il y a des faiblesses techniques importantes, et elles sont toutes du côté droit. Que ce soit Coco, Moutoussamy, Castelletto, que ce soit Appia, Fabio et n'importe qui on met en arrière droit, tout notre côté droit, il a toujours été très faible techniquement. Et on a recruté personne de ce côté-là. Blas va partir. Alors il nous reste que notre côté gauche avec Merlin et Simon.
Et Chirivella qui se décale un petit peu sur ce côté-là.
J'adore
ce joueur. Très bon joueur, Chirivella.
Avec une intelligence de jeu folle. Mais pour son pendant à droite, on n'a personne, parce que ce soir, il a testé Moutoussami. La semaine dernière, on a vu Sissoko. Mais je vois personne à droite qui a des compétences techniques. Et Lafond nous sort un énorme match, mais toutes les occasions viennent de la droite encore. À gauche, j'adore Palois, et j'aimerais bien que quand il est cité, qu'il ne soit pas cité que pour son caractère, mais parce que je trouve que collectivement, techniquement, il est vraiment bon techniquement. Il a toujours une science du placement, il arrive à être en avance sur tous les attaquants, même des plus rapides que lui. Mais à droite, par contre, c'est catastrophique ce qu'on a.
Ouais, messieurs,
Oui, alors, je ne mettrai pas forcément... c'est Giroto dont il a parlé. Je ne mettrai pas forcément Giroto dans le panier.
Ah non,
parce
Castelletto.
Ouais, Castelletto. Mais lui non plus. Pour moi, les trois défenseurs centraux, ça va, c'est correct pour le FC Nantes. C'est quand même des bons joueurs.
C'est bien pour la Ligue 1.
Ils ont une bonne complémentarité.
Mais bon, Coco qui ne joue pas à son poste. Il y a des manques de ce côté-là.
Sur le couloir droit, c'est vrai qu'on se demandait avec Seb pendant le match pourquoi Korchia n'a pas joué ce match. Parce que bon, les deux joueurs qui sont là, c'est pour le coup, Nantes a fait beaucoup défendre et c'est deux joueurs qui sont plutôt offensifs. Maintenant, oui, non, mais de toute façon, c'est sûr que cet effectif, il a des limites. Nous, on est aussi, tu sais, Nicolas, nous, on est quand même aussi obligés de les juger comme une équipe européenne, même s'ils ont gagné la Coupe de France. Maintenant, t'es quand même une équipe qui a fait une belle saison l'an dernier. Et le problème, c'est qu'on voit pas de continuité. Et c'est aussi pour ça, je pense que Camboire doit se poser des questions, parce que tu fais une belle saison, mais du coup, tu mets tes joueurs sur l'étalage. Si les joueurs qu'on a cités viennent à partir, bah, tu te retrouves un peu dénudé et tu sais pas trop comment tu vas faire pour faire ton équipe.
Le souci, c'est qu'on n'a pas confiance. Des clubs comme Lens, ils font une bonne saison, des joueurs sont sur l'étalage, mais on a une confiance dans
T'as pas confiance en la bande de copains
citer. Moi, Bayat, pour ne pas le citer, qui est votre directeur sportif officieux.
J'ai pas confiance dans notre absence de cellule de recrutement.
Mais si, c'est Moji Bayat.
Et les copains du coach.
Là, j'ai vu qu'il aurait proposé un attaquant jamaïcain.
Pas sûr que sur la tablette de Moji Bayat, il y ait les logiciels de scout.
Ouais. Non, mais après, il y a quand même une chose à dire, c'est que Nantes s'active pour trouver un avant-centre. Alors, pour l'instant, ça patine. On sait qu'il y a eu des contacts avec Wang, qui serait une bonne recrue pour Nantes. On sait qu'il y a des contacts avec Christian Kouamé de la FIO, qui serait aussi une bonne recrue. Ça veut quand même dire qu'ils ont conscience de leur manque devant. Après, va falloir voir qui va partir, parce que tu perdes Blas, c'est acquis, c'est une grosse perte pour l'équipe, etc. Je l'entends. Mais si en plus tu perds Simon, t'as vraiment plus personne devant.
Ah oui. Et sachant que Blas, juste une remarque par rapport à ce que Kevin disait pendant le match, on a eu le cas il y a un an d'un joueur qui a joué contre son ancien club. C'est Valentin Rongier.
Ouais, je me rappelle.
Fin août, il a joué contre Marseille. Il avait fait un énorme match.
Ouais.
Donc c'est possible, des joueurs qui font un énorme match contre leur futur club.
C'est l'année où Pipa loupe le penalty là, c'est ça?
Je crois, oui.
Merci beaucoup Nicolas d'avoir été avec nous. Merci, en fait, une belle saison avec le FC Nantes.
Vous me rejoignez si je vous dis que je suis inquiet quand même pour une année 4 descentes, vu comment l'effectif est construit, la Coupe d'Europe?
Je te dirai le 30 août.
Après le mercato,
tu l'as déjà dit, et je suis pas loin de te rejoindre, même si il y a quand même d'autres clubs qui m'ont un peu fait souci la semaine dernière dans ce que j'ai vu, et plus souci que le FC Nantes. On va passer à Lille, messieurs, si vous le voulez bien, un match en demi-teinte, ou plutôt un match à deux facettes, avec une première période vraiment très moyenne, en panne totale de créativité, et une deuxième période nettement meilleure, et plus conforme à ce qu'on avait vu la semaine dernière.
Ouais, même dans la première mi-temps, j'ai quand même vu des belles choses. Parce que Alexandro, qui vient de Chavez, j'avoue le découvrir, et je le trouve vraiment très intéressant. Très intéressant, belle complémentarité avec José Fonte. Tu vois, je me demandais pourquoi, avant le match, je me demandais quand même pourquoi cette année, Chevalier, le jeune gardien de Lille qui était prêté l'an dernier à Valenciennes, pourquoi il n'est pas titulaire. Mais en fait, je comprends un peu. C'est-à-dire que là, t'as un nouveau défenseur qui est Alexandro, t'as un autre Portugais à côté. Derrière, du coup, t'as un gardien brésilien. T'as Gomes aussi qui est brésilien. T'as Thiago Diallo qui parle portugais. Donc, au final, Gomes, il est anglais.
Il est toujours anglais, mais
il a des origines. Donc, je veux dire, peut-être aussi pour le début de saison, il voulait un gardien.
Pour la communication, peut-être, tout simplement.
Qui communique bien avec cette défense. Et j'ai trouvé vraiment intéressant, même Gomes en 6 comme ça, alors que normalement, c'était un milieu offensif quasiment.
Ouais, on l'avait vendu entendu comme ça, on le voyait plutôt sur les côtés, effectivement. Il jouait là en relayeur.
En relayeur, joueur très technique, qui a fait du bien dans l'entrejeu. Ils ont quand même plus de 63 ou 4% de possession de balle en première mi-temps, les Lillois, même s'ils sont menés sur le temps fort nantais. Et en deuxième mi-temps, par contre, Rémi Cabella s'est réveillé. En première mi-temps, il a perdu trop de ballons, mais en deuxième mi-temps, il a été excellent sur les 10 premières minutes. Il fait deux possible passe D. Derrière, il frappe aussi, lui, il se crée deux belles occasions avec deux énormes arrêts de Lafond. Et c'est au final fort logiquement que Lille arrive à égaliser, voire même ils auraient pu aller chercher les trois points, ça aurait pas été mérité.
Ça aurait été mérité, Lafond a été extraordinaire, mais moi ce que je retiens, c'est le côté proactif de Fonseca sur le banc. Et la mi-temps, il change ses deux pistons. C'est pas un choix qui est quand même anodin, hein. Ça veut quand même dire ce que ça veut dire. Et puis comme par hasard...
Ils avaient des cartons.
Oui, aussi, mais je pense que c'est quand même, tu vois, sortir tes deux latéraux en même temps,
c'est etc. Quelque chose,
c'est que tu, y a un truc qui te va pas et t'as quand même envie, tu vois, de changer quelque chose dans ton équipe. On a vu en deuxième mi-temps un LOSC avec un tout autre visage, donc à l'image de Cabella, je vous rejoins. Et puis après, voilà, on a quand même vu quand même des beaux mouvements collectifs, des choses qui ont l'air d'être travaillées en entraînement, de la qualité offensive devant. Alors, je reste toujours un petit peu mitigé sur les débuts de Mohamed Bayo avec le LOSC, que ce soit lors des matchs de préparation ou lors des deux premières journées de Ligue 1. Ça reste quand même un joueur de qualité, mais il va falloir trouver la manière de l'intégrer au mieux à ce collectif-là. Mais il y a quand même beaucoup de joueurs de très grande qualité. Et je le répète, Smaïli, quand il va être en forme, risque de faire mal, hein.
Ouais,
c'est pas très très mal là, t'as l'impression que
c'est vraiment on s'en souvient au Shakhtar, Kevin s'en souvenait un petit peu moins, mais c'est un joueur qui sait tout faire. C'est-à-dire que c'est un latéral qui, à mon avis, pourrait parfaitement jouer au milieu de terrain.
Moi, j'avoue que
c'est pas
le joueur que j'ai vu le plus jouer au Shakhtar, ou que j'avais le plus remarqué.
La qualité technique.
Mais en fait, il joue comme un vétéran. C'est-à-dire qu'il a, t'as l'impression qu'il voit tout avant tout le monde. Il va pas très vite, hein. On peut pas dire qu'il va très très vite.
Mais la qualité technique, la
vision de jeu. Les petites talonnades, toujours bien placées. En tout cas, il a fait une rentrée, franchement, pour un joueur qui, on le voit, n'est pas encore prêt physiquement. Vraiment une recrue intéressante.
Il sera jamais vraiment prêt physiquement.
Ouais, voilà.
Mais il a 32
ans, quoi.
Mais c'est la force des joueurs qui savent tout faire. Ils ont pas forcément besoin de le faire vite, bien.
Mais franchement, c'était intéressant. Et juste, tu parlais de Mohamed Bayo. Mohamed Bayo, c'est pas un grand attaquant techniquement. Par contre, c'est un joueur qui va servir au moins à une chose, c'est de libérer Jonathan David. Alors aujourd'hui, Jonathan David,
maladroit.
Il est un peu maladroit, mais il est quand même bien mieux que l'an dernier, parce qu'il se crée quand même des occasions. Mais du coup, Bayo, il monopolise les défenses beaucoup plus que le faisait Yilmaz, et du coup, ça donne de l'espace et ça libère Jonathan David. Et quand ces deux-là vont commencer à vraiment se trouver, ça peut faire mal avec Rémi Cabella et Zegrova aussi, qui va venir pour apporter son grain de sel. Ouais.
Paul est supporter du LOSC, qui nous a appelé au 32-16. Salut Paul, comment ça va?
Salut Tim, salut John, salut Kevin.
Salut Paul.
Un peu déçu par le résultat final, parce que la manière aurait peut-être voulu que Lille prenne 3 points.
Bon, en fait, vous avez tout dit ce soir. Moi, je suis un petit peu déçu du résultat parce qu'effectivement, on a fait une première demi-heure qui n'était pas exceptionnelle. J'ai l'impression que comme c'était le premier match extérieur, on a joué un petit peu avec la chair de poule entre guillemets. Mais après, j'ai vu sur les deux matchs. Moi, j'étais au stade contre Auxerre et j'ai vu ce soir des automatismes et un plan de jeu. Moi qui me plaît, avec une possession de balle assumée, avec des pistons qui sont très bien utilisés, avec un pressing très très haut et un recrutement assez intelligent qui demande à se concrétiser, parce que c'est ce que vous disiez typiquement, Mohamed Bayo, il n'est pas encore au sommet de son art, il est encore un petit peu maladroit. Cabella, il a fait un beau match la semaine dernière, mais là cette semaine, ce soir, il n'est pas atteint.
Il fait une belle seconde mi-temps quand même, non?
Non, il fait une belle seconde mi-temps, mais quand tu recrutes un joueur de ce calibre-là et de son expérience, tu attends qu'il soit très bon le match entier. Mais moi, ce que j'ai vu ce soir, ça me conforte dans mon enthousiasme de l'intersaison avec le recrutement de Paulo Fonseca. Et ce que j'ai vu ce soir, ça me rappelle ce que j'ai vu la semaine dernière. Et quelque part, ça me convient.
Ouais, justement, Fonseca, moi je l'avais noté un peu dans mes trois points un petit peu personnels. Franchement, c'est un grand oui, parce qu'il y a ce que j'en ai vu la semaine dernière, il y a l'interview que j'ai lue ce matin dans l'équipe, moi que j'ai trouvé ultra rafraîchissante.
Ouais, non, moi, tu sais, ce que j'ai préféré dans son interview, c'est quand il dit qu'il a connu le niveau amateur, au Portugal, où il devait aller chercher ses ballons parce que sinon, il n'y avait pas de matériel. Donc ça, pour ceux qui ont connu le football amateur, on l'a tous connu ou on le connaît encore. Et j'ai trouvé cette humilité, le fait de pas oublier d'où il vient, d'avoir toujours ce plaisir. Parce que ces gens-là, les gens comme ça, qui sont capables de te parler de leurs expériences au plus petit niveau, c'est ceux qui, quand ils sont dans le grand bain, souvent, ils n'oublient pas, justement. Et ils arrivent à garder cette humilité et cette fraîcheur. Et quand ils parlent de plaisir, c'est ça aussi. Le métier d'entraîneur, c'est un métier qui est très difficile, qui est très stressant. Mais à partir du moment où des fois, tu arrives quand même à te rappeler que tu fais quand même un des plus beaux métiers du monde en tant que sportif ou qu'entraîneur de sportif, il y a quand même vraiment ce qui est ressorti avec ce charme du football dans son interview. Et on voit que c'est un passionné, c'est quelqu'un qui est content d'être là. Et ça, franchement, ça fait du bien à entendre.
Et il a quand même métamorphosé le LOSC hein, depuis qu'il est arrivé, faut le dire, hein, vu les bouillies qu'on voyait l'année dernière. Je pense que si t'es supporter lillois, c'est un changement qui est quand même assez impressionnant. Hein. On a vu des choses, des circuits préférentiels.
Tu vas prendre ton abonnement là, après les deux premiers matchs.
Ah bah ouais. Il y a des choses. Tu sens qu'il y a des choses qui sont travaillées, que c'est pas juste du talent individuel. Les petits jeux sur les côtés, les jeux à trois et tout. Enfin, t'as vraiment un mec qui est arrivé avec des vraies idées et c'est très très bien parce que ça reste un effectif de qualité. Hein.
Merci beaucoup Paul de nous avoir appelé au 32-16. On te souhaite une très belle saison avec Lille. À très vite.
Merci à vous les mecs, c'est un plaisir de vous revoir ce soir.
Salut Paul. Plaisir partagé. Messieurs, on va refermer la page de cette première rencontre de la deuxième journée de Ligue 1. Je vous rappelle que demain il y aura également le match entre Monaco et Rennes. Ce sera à 17h. Paris Saint-Germain, Montpellier à 21h. Et puis le reste de la journée, ce sera dimanche avec Ajaccio-Lens, Auxerre-Angers, Reims-Clermont, Troyes-Toulouse, Nice-Strasbourg et en clôture Brest-Marseille. Le match entre Lorient et Lyon a été reporté. On y reviendra tout à l'heure dans un petit instant.